Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à ce quatrième épisode du balado Rivière à la baie présenté par le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour. Aujourd'hui, pour le quatrième épisode, j'ai la chance de m'entretenir avec deux membres de l'Association des riverains et riveraines du lac Joseph, M. Denis Fournier, président, et M. Serge Rousseau, vice-président. Dans l'épisode, on va parler, comme vous l'avez sûrement deviné, du lac Joseph. Le lac Joseph, c'est un lac fluvial de la rivière Bécancour qui est situé juste après le lac William. Il est situé dans les municipalités de Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste et Inverness, dans le centre du Québec. Donc, dans l'épisode, vous allez en apprendre plus. Donc, je ne vais pas plus tarder. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour Denis, bonjour Serge.
Bonjour Chloé.
Bonjour Chloé.
Merci d'avoir accepté de participer. Pour la première question, pour aussi mettre en contexte les gens, là, je vais comme vous parler chacun votre tour pour que les gens reconnaissent votre voix aussi. Donc, Monsieur Fournier, Denis, est-ce que tu pourrais nous parler là, de ça fait combien de temps que tu es impliqué dans l'association, puis aussi qu'est-ce qui t'a poussé à la base à t'impliquer dans l'association?
Oui, moi, j'ai acquis le chalet familial en 2017. Donc, en 2017, j'arrivais là, je dirais, pas mal dans le milieu de l'été. L'été était avancé, donc c'était l'aménagement, pas mal. Mais en 2018, j'ai assisté à la première AGA et j'ai vu à l'AGA qu'il y avait un poste d'ouvert dans mon secteur. Donc, j'ai demandé s'il était intéressé d'avoir ma candidature. Finalement, en 2019, j'ai devenu président. Après ça, il y a eu la pandémie. Puis, pas longtemps après, on a perdu notre site web. Donc, c'est comme devenir capitaine de bateau un peu juste au début d'une tempête, là.
Oui, c'est bien dit. Hein? Puis,
quand je me suis présenté la première fois en 2018, j'étais à l'AGA. Ben, l'AGA a été annoncée dans mon secteur. Puis, si ça m'intéresse, je vais aller voir principalement... Je venais de revenir au lac et je voulais voir un peu les projets qui étaient en branle. C'était quoi un peu ce qui était planifié pour le secteur, pour le lac. Un peu me tenir au courant. Donc.
Ah, ben c'est parfait, c'est le fun. Ben, c'est une belle façon de se tenir au courant, justement, de participer aux associations générales annuelles des associations.
Oui, comme j'ai dit à Maryse à l'époque, Maryse qui est un autre administrateur, elle représente le camping, c'est probablement la promotion la plus rapide que j'ai eue de toute ma carrière, ça.
C'est bon. Puis, Serge, toi, est-ce que tu peux me parler de ça fait combien de temps que tu es impliqué dans l'asso, puis pourquoi c'était important pour toi d'être impliqué au départ?
Ben, en fait, au départ, moi, je me suis établi ici à Inverness, en fait, de façon occasionnelle. C'est un ami de travail qui m'a contacté à un moment donné pour me dire qu'il avait trouvé de beaux terrains sur le bord d'un lac à Inverness. Je te dirais qu'à cette époque-là, je savais même pas où c'était Inverness, mais quand on est venu visiter les terrains, je suis comme tombé en amour avec la région. Fait que je me suis acheté un terrain, je me suis fait bâtir un peu plus tard en 2005. Et moi, ben travaillant à Québec, je voyageais les fins de semaine. Je venais passer mes fins de semaine de congé là, ici sur le bord du lac. Et puis, à ma retraite en 2016, ma conjointe et moi, on s'est rendus ici à temps plein. Et là, ben, en étant à la retraite, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer à certaines des activités. Fait que là, ben, je me suis dit, évidemment, ben pourquoi ne pas m'impliquer dans l'association des riverains? Ça va être d'abord positif pour moi parce que ça va m'occuper d'une part. Puis d'autre part, ben tant qu'à m'occuper, ben pour le bien du lac sur le bord duquel je suis. Fait que, puis en même temps, à cette époque-là, c'était un monsieur Yvon Desrochers qui était président de l'association. Ce monsieur-là, juste de par son attitude, m'a comme beaucoup incité à intégrer l'association. C'est un monsieur qui était très dynamique, énergique, puis je trouvais qu'il avait des belles idées à ce moment-là. Fait que je suis tout simplement allé le voir à un moment donné, puis je lui ai offert mes services, puis il l'a accepté là, d'emblée. Et depuis ce temps-là, j'étais avec l'association. Puis, comme Denis disait tantôt, là, il est devenu président là, à la suite là, du retrait de M. Desrochers. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, là, on a une belle équipe de travail là, pour prendre soin de notre lac.
Ah, ben c'est super. Puis justement, en parlant de l'équipe puis de l'association, ben je pense que ce serait intéressant pour les auditeurs d'en connaître un peu plus sur l'association des riverains et riveraines du lac Joseph, comme sur l'historique, comment ça a commencé, tout ça. Comment ça se commence, une association riveraine?
Bien, nous autres, l'association des riveraines et riverains du lac Joseph, ça a commencé en 1975. C'est sept messieurs, ils appellent les sept pères fondateurs. C'est des messieurs qui venaient principalement de Plessisville et de Thetford. Ils ont formé un premier conseil d'administration. À cette époque-là, ça s'appelait l'Association des propriétaires de chalets du lac Joseph. Fait que le premier président étant un monsieur Adrien Bouffard. Eux autres s'étaient donné des objectifs que je te dirais qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Entre autres, là, c'était de grouper en association les propriétaires là, de terrain et de résidence là, de chalets autour du lac. C'était de voir à maintenir l'ordre et la propreté dans l'environnement du lac. Ils voulaient également maintenir les chemins dans un état carrossable, parce qu'il y a beaucoup de chemins privés. C'est beaucoup des chemins de gravelle. Alors, on sait qu'avec le climat qu'on a au Québec, là, c'est pas trop facile de maintenir ça en bon état. Il faisait également la promotion puis le respect des lois et règlements autour et sur le lac, évidemment, parce qu'on a beaucoup de pêcheurs, de plaisanciers encore aujourd'hui. Il favorisait le développement aussi de la faune aquatique. C'est un lac qui est très réputé là, pour la pêche là, de différentes espèces de poissons. Puis également, là, de par leur mission, ils essayaient d'obtenir les services nécessaires et essentiels là, à l'association. Là. Ils s'associaient là, effectivement à d'autres organismes pour compléter là, le maintien en bonne santé du lac Joseph.
Ah, puis ça,
la partie historique, oui.
Oui, c'est ça. Puis dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous avez encore un peu les mêmes objectifs aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. On sait que c'est justement encore là avec les changements climatiques et tout ça, là, c'est de plus en plus difficile des fois de garder notre environnement sain et en santé, mais ça demeure notre mission de faire tout ce qu'on peut là, pour garder notre joyau que j'appelle.
Oui, ah ben c'est bon. Pour les gens qui sont membres de l'association, mais premièrement, combien il y a de membres dans l'association, mais aussi qu'est-ce que ça implique d'être membre d'une association riveraine?
Actuellement, on a 250 membres.
Wow!
C'est bon, oui. Quand même très bon. Sur les propriétés autour du lac, il y a 333 propriétés habitables. Donc, on a 75% des résidents qui sont membres de l'association. C'est très bon.
Oui.
Il y a au total 470 terrains, mais il y a encore des terrains non vendus, non défrichés, non développés, mais, qui vont éventuellement s'ajouter. Donc, on a un potentiel de 470 terrains autour du lac. Donc, je dirais pas ce que ça implique aux membres, mais plutôt ce que ça donne aux membres. Je pense que c'est un peu comme moi, ça donne une façon, ça donne des outils pour sauver le joyau qu'on a. C'est un joyau commun à tout le monde et on veut le sauvegarder, le préserver aussi longtemps que possible. On aimerait que nos enfants puissent en profiter. Donc, une personne toute seule peut pas arriver à faire ça, les outils avec le gouvernement, le MLCC, ça n'a pas de bon sens, c'est compliqué. Donc, l'association, c'est comme des outils pour arriver à ses fins, à protéger ce joyau-là. Être membre, c'est supporter la nature, supporter notre environnement. C'est, comment dire, on forme une équipe, on se met tout ensemble puis, pour arriver à nos fins.
Oui, c'est dire que tous ensemble, on est plus fort puis on peut aller plus loin.
Tout à fait, c'est tout à fait ça, oui.
Peut-être juste ajouter également que la cotisation, en fait, c'est une cotisation annuelle de 25 $ puis le montant n'a pas changé depuis déjà plusieurs années. Puis c'est une cotisation qui est volontaire, fait qu'on apprécie d'autant plus que les gens là, puissent contribuer justement. Mais comme le disait Denis, c'est pour eux autres aussi, c'est pour tout un chacun. La contribution qu'on fait là, pour le lac. Fait que, en contribuant, ben, les gens s'aident aux autres mêmes.
Ouais, ben, puis en parlant de contribution, ça m'a fait penser à ça, là, le financement, comment ça fonctionne? T'sais, on voit que les associations riveraines, souvent, ils vont faire des projets, ils vont impliquer de l'argent là, pour tout ça. Donc, comment ça fonctionne, le financement d'une association riveraine? C'est quoi vos sources de financement, finalement? Il y a la cotisation des membres, qui est volontaire, mais sinon...
Oui, la cotisation des membres, moi, je vous dirais, c'est notre principale source de financement. Avec nos 250 membres actuels,
ouais.
Qu'on se maintient à chaque année, ben, on va chercher 6 500 $ annuellement. Qui nous permet, c'est principalement ça qui nous permet de financer nos projets. Par exemple, on a 2 000 $ qui passent pour nos bouées et on répartit les autres fonds. Il faut quand même équilibrer notre budget avec mm-hmm. ça. On a les campings qui nous fournit quand même un bon financement. Ça, c'est assez régulier. On a 400-750 $ pour camping chasse et pêche de civil, camping bois franc, qui sont des... je dirais des partenaires réguliers. Le camping, les mousquetaires, on l'a perdu la dernière année. On a, mais eux autres aussi contribuent habituellement pour 700-720 $. Donc, c'est quand même considérable. On va essayer d'aller les reconquérir parce qu'ils ont changé d'administration. Donc, il y a eu. On les a momentanément perdus. Après ça, on a les subventions municipales. Ils nous donnent, c'est intéressant ce qu'ils nous donnent. On a principalement de la municipalité d'Inverness qui nous fournit ici un support indéniable. C'est, il y a une subvention monétaire de 2 900 à 3 000 $. De Saint-Pierre-Baptiste, c'est dommage, on ne reçoit plus rien. C'est zéro. Et j'ai réussi à ajouter une contribution de Saint-Ferdinand qu'on n'a jamais eue auparavant, avant que je sois président. Ils ont une petite section du lac, donc je leur ai proposé de financer au prorata de leur nombre de résidents, puis ils nous donnent 250 $ annuellement. Moi, je trouve ça très correct.
Oui, ah, ben donc, oui, c'est un bel ajout.
Et on a quelques commanditaires. On va chercher un 600 $ de commanditaires, donc on publie, on met ces commanditaires-là sur notre site web. On les favorise, on les réfère. Quand les gens nous demandent s'il y a des ressources disponibles autour du lac, des magasins, de telles choses, ben, si c'est dans nos commanditaires, ça nous fait plaisir de les référer. Mm-hmm. Malheureusement, on ne réfère pas des gens qui ne nous ont pas commandité. C'est une règle. On ne fait pas de publicité gratuite.
Non, mais, ben,
c'est... Ça englobe toutes nos sources de financement. Mais notre principal, ça reste nos membres.
Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'avec le nombre de membres que vous avez, là, je suis encore impressionnée. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a autant de gens là, qui s'impliquent autour du lac. C'est aussi motivant, j'imagine, pour vous qui sont président, vice-président de l'asso, de voir qu'il y a autant de gens là, qui vous appuient autour du lac.
Oui, effectivement, oui, c'est agréable. On a du support. On se sent bien supporté, mais on manque quand même de main. C'est, comment je pourrais dire, c'est qu'on nous demande beaucoup de choses. Les gens nous donnent leurs 25 $ en espérant qu'on fasse les choses pour eux, mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est que, comme je disais tantôt, l'association va aider les gens à faire les choses, mais on peut pas les faire pour eux autres. On n'a ni le temps ni les ressources pour faire ça. Mais on a les connaissances, on peut les aider monétairement. On a une demande il n'y a pas longtemps pour, dans le secteur bois franc, il y a des quais flottants pour aviser les gens pour les limites de vitesse. Puis, celui qui s'occupe de ce secteur-là, nous a demandé, il voudrait comme rajeunir les quais, puis changer le mode d'ancrage. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, on peut même vous financer le projet. Si vous êtes capable de le faire, on va vous appuyer. Puis on va même vous donner des informations pour vous dire que ce n'est peut-être pas une bonne idée de reviser un peu votre projet. Parce qu'il y a des glaces, là, le printemps, qui peut arracher les clés et arracher les ancrages. Donc, on leur fournit des informations, on les supporte, on les aide monétairement, mais on peut rarement faire les choses à leur place. On est, comment dire, on n'a pas le personnel pour faire ça. On n'a pas suffisamment de gens qui s'impliquent pour réaliser des projets importants.
En même temps, quand on regarde la conjoncture actuelle, avec la pénurie de main-d'œuvre un peu partout, quand vient le temps là, de faire du bénévolat, c'est aussi difficile de recruter des gens. On comprend très bien, mais on en profite justement pour inviter là, ceux qui ont le désir de participer et contribuer un petit peu là, à leur environnement naturel qui est tellement beau d'ailleurs. Puis souvent, on ne demande pas grand-chose. Hein. C'est pas du 40 heures par semaine, comme on dit. Fait que ceux qui ont le désir de contribuer et de s'engager le moindrement, on les accueille à bras ouverts.
Oui, c'est ça. Fait que ces gens-là qui, exemple, nous écoutent là, puis disent, c'est vrai, dans le fond, je pourrais donner un coup de main des fois s'ils ont besoin d'une journée. Ils pourraient vous contacter là, sur la page Facebook ou à vos adresses courriel, j'imagine, pour vous donner leur nom puis finalement dire que quand vous avez besoin, vous pouvez les contacter.
Tout à fait. Puis toutes les coordonnées sont sur notre site web, www.lacjoseph.ca. Ils vont trouver les coordonnées de tous les membres là, du conseil d'administration, là, puis même des représentants de secteur, etc. Fait que c'est facile à trouver, comme on dit.
Parfait. Puis je vais aussi mettre le site web en barre d'infos là, du balado. Donc, si jamais il y a des auditeurs là, qui nous écoutent en ce moment puis qui sont intéressés là, à vous faire signe ou à aller voir votre site web, il va être en barre d'infos. Fait que maintenant qu'on comprend mieux c'est quoi l'association puis tout ça, je pense que ce serait bien de parler un peu du lac Joseph en tant que tel aussi. Donc, justement, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent puis qui disent « Ah, waouh, ça a l'air d'être un bel endroit », tout ça, comment est-ce que je peux y avoir accès? Est-ce que moi aussi, étant quelqu'un de l'extérieur, est-ce que je peux aller en profiter? Comment ça fonctionne?
Veux-tu y aller, Serge?
Oui, excuse, parce qu'il y avait eu comme une petite coupure, là, fait que je ne savais pas trop qui c'est qui allait entamer la réponse. En fait, c'est que anciennement, le lac était ouvert au grand public, mais un peu comme je disais tantôt, notre lac est tellement populaire pour le sportif que j'imagine qu'à cette époque-là, ils se sont rendus compte que le lac va peut-être... il y avait peut-être trop de gens qui utilisaient le lac pour ce que le lac pouvait accepter ou endurer, je dirais ça comme ça. Fait qu'à un moment donné, aux alentours, je pense, au début des années 2010, il y a eu des ententes entre l'association, les campings et la municipalité pour restreindre un petit peu l'accès au lac là, pour les résidents des trois municipalités là, qui bordent le lac. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un débarcadère municipal du côté de Saint-Pierre-Baptiste. Mais pour avoir accès à ce débarcadère-là, il y a une clé qui est disponible auprès de l'Association des riverains. Ou, comme on le disait tantôt, les gens d'extérieur peuvent avoir un accès par les campings, mais il y a des frais qui sont demandés pour ça. Fait que le but étant de pas d'en faire un lac privé, mais de limiter un petit peu l'accès au lac, tout simplement pour, je dirais, la survie du lac puis la faune aquatique également.
Ouais, puis dans le fond, les embarcations comme les canots, les kayaks, ces embarcations de style-là, les paddleboards qui sont populaires ces temps-ci, ils peuvent quand même passer, ou le débarcadeur, j'imagine, à cet
Oui, tout
endroit-là,
à
oui.
fait. Pour les embarcations non motorisées, l'accès est gratuit, effectivement.
Ouais.
Et c'est le fun de voir que on en voit de plus en plus sur le lac. On dirait que les kayaks réapparaissent, les paddleboards, c'est la nouvelle vague, c'est le cas de dire. Et on en voit de plus en plus également. Fait que c'est le fun de voir ça, là, parce qu'il y a des moments où le lac est tranquille. Et quand on voit passer ça là, en avant de chez soi, là, c'est des espèces d'images bucoliques, là, c'est plaisant à voir.
Ouais, hein? C'est beau. Puis sinon, au lac, je sais que la pêche est assez populaire aussi, je pense.
Ah oui, la pêche est très populaire. Je vois souvent quelques chaloupes de pêche arrêtées ou passer lentement devant chez moi. Là où je demeure, c'est réputé comme une zone intéressante pour la pêche. Il se pêche beaucoup de brochets, malgré tout. Il y a de la terre chaude, un peu, qu'on pêche au bord de l'eau, puis du doré. Ils sont du doré, je pense que c'est pas mal qui se pèse. Il s'est sorti quelques masquinongés, mais je dirais qu'il a tendance à se faire rare, soit qu'il se cache, mais peut-être qu'il s'est sorti il y a ces dernières années des belles pièces de masquinongés.
Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est bien de dire qu'il se cache parce que nous, le gros bec, pour mettre en contexte les auditeurs, on a fait des pêches scientifiques là, pour une étude justement au lac Joseph sur les brochets et les masquinongés et on a capturé aucun masquinongé. Donc, on a dit, ah, c'est vrai qu'il se cache parce qu'on était dans la bonne période et on était dans les bons secteurs supposément. Donc, je pense que c'est vrai que le masqui se fait silencieux et se cache.
Mais je te confirme que notre lac est très populaire pour la pêche. Parce que je te dirais que je ne suis pas personnellement un grand pêcheur de brochets, de dorés, puis de tout ça, mais je les vois beaucoup. Puis je te dirais même que ça se lève de bonne heure le matin pour aller à la pêche. Il y a des journées où je ne me verrais même pas sur le lac. Puis on voit les vrais pêcheurs là. Passer en avant de chez nous, là, ça pêche à la traîne, puis tout ça, puis des fois, il fait pas trop chaud, puis il pleut, puis il y a du brouillard des fois, puis la saison est à peine entamée qu'on voit les chaloupes sur le lac. Là. Fait que je pense que oui, notre lac est bien populaire pour les pêcheurs.
Des pêcheurs courageux en plus.
Tout à fait.
Puis, je pense que c'est un bon moment pour parler aux auditeurs là, que la pêche blanche est interdite au lac Joseph. Je me souviens là, qu'on avait déjà discuté ensemble dans le passé là, de cet enjeu-là qui était un peu méconnu. Fait que je pense que c'est un bon moment pour avertir là, les gens qui écoutent. Si jamais vous n'étiez pas au courant, la pêche blanche au lac Joseph est interdite. Donc, la pêche sportive l'été, il n'y a pas de problème. Mais l'hiver, c'est pas possible d'aller pêcher sur le lac Joseph.
Effectivement. Exactement. C'est ça. Au lac William, on sait qu'il y a même, je pense, une journée ou une fin de semaine de pêche là, blanche là, pendant l'hiver. Puis le lac Joseph, même si on découle du lac William, nous autres, si je ne me trompe pas, c'est dans un but encore là de protection de notre faune aquatique et de la quantité de nos poissons, ben, effectivement, le ministère a décidé d'interdire la pêche hivernale sur notre lac, en espérant qu'on retrouve là, un bon bassin là, de nos poissons pour qu'éventuellement on puisse peut-être réouvrir la pêche hivernale sur le lac. C'est ce que beaucoup de pêcheurs souhaitent et même l'association là, est en accord avec ça.
Puis sinon, si je viens à vous poser la question, vous, chacun votre tour, là, peut-être me répondre sur c'est quoi, vous, votre aspect préféré du lac? Qu'est-ce que vous aimez plus? Est-ce que c'est un endroit, un moment? Qu'est-ce que vous préférez du lac Joseph?
Si je peux commencer, pour moi, c'est la nostalgie. Moi, je suis arrivé là à 2 ans. Donc, comment dire, j'ai passé mon enfance et mon père, c'était un pêcheur. Il partait le matin avec petite chaloupe, puis son moteur deux forces, puis il remontait jusqu'à la tête du lac, qui revenait à Brunante le soir, tranquillement, on entendait son moteur au loin, puis il revenait souvent avec un petit brochet ou un doré, à l'occasion, un masquinongé. Mais c'est mon enfance que j'ai passé là. Donc, quand que mon père a commencé à parler, il dit, je suis plus capable de l'entretenir, je vais être pris pour vendre le chalet. Ben, je n'ai pas été capable de laisser passer l'occasion de mettre la main sur le chalet familial. J'ai dit, je ne peux pas me faire à l'idée de plus pouvoir mettre les pieds là.
C'est un endroit qui est cher à vos yeux, rempli de souvenirs.
Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Tout printemps, on déménageait, on allait rester au chalet, puis mon père, il voyageait soir et matin, il allait travailler à Pessiville, à Fourneau. Nous autres, on demeurait au chalet tout l'été. Aussitôt que les vacances d'école arrivaient, on partait, nous autres, on s'en allait au chalet. Donc, j'y ai passé mon enfance. Les pères fondateurs, M. Adrien Bouffard, je les ai personnellement connus, ces gens-là. Je me souviens de leur particularité. Adrien Bouffard, il avait un pied beau qui m'a toujours fasciné. C'était un grand monsieur de 6 pieds, 200 livres. Sa femme mesurait à peine 5 pieds. Et Bernardin Ruel, un autre administrateur, ben, il était coiffeur, notre troisième voisin à Pessiville. Puis je me souviens qu'il avait une pince dans le creux de la main parce qu'il avait eu un accident dans sa douche. Il s'était complètement sectionné le nerf radial. Puis il avait installé une pince. À l'époque, il n'opérait pas ça. il était coiffeur. Il a travaillé avec sa pince, c'est un excellent coiffeur. Il était des gens que j'ai connus, ça, au lac. C'était nos voisins d'époque, les années 70.
C'est le fun, ça fait des beaux souvenirs de se rappeler tout ça, puis de rester là-bas, justement, pour en profiter encore. Puis, Serge, toi, est-ce que tu as quelque chose qui un coup de cœur, là, au lac Joseph?
Oui, ben, de mon côté, autant c'est plaisant de voir l'été quand il fait beau et chaud, de voir les gens s'amuser sur le lac, puis d'entendre les rires, puis de voir la joie dans le visage des plaisanciers, c'est plaisant. Mais en même temps, une période de l'année que j'adore au lac, c'est à l'automne. On est une région peuplée d'érablières. Alors, à l'automne, fin septembre, début octobre, quand c'est plein de couleurs dans les arbres, que tu te lèves le matin, que tu vois un petit brouillard au-dessus de l'eau, puis que quand le brouillard se lève, le lac est comme un miroir, puis tu vois le reflet de la montagne d'en face, dans l'eau. Pour moi, c'est des moments là, de plénitude. Là. C'est de toute beauté.
Wow,
le calme, la sérénité que ça amène, là, c'est de toute beauté également.
C'est bien décrit parce que la façon dont tu l'as décrit, ça me faisait vraiment l'image dans ma tête. Là, je voyais l'image dont tu parlais. Puis c'est, j'imagine que c'est magnifique, là, en effet.
Tout à fait.
Maintenant qu'on a parlé du lac puis de comment il est beau ce lac-là, je voulais parler un petit peu des projets que vous avez réalisés dans le passé, l'association, puis que vous réaliser encore à ce jour les projets qui sont en cours et tout ça. Puis le premier qui m'est venu en tête, ben, c'est les bouées. On en a parlé tantôt, là. Vous en avez parlé qu'il y a une partie de votre budget là, qui était allouée aux bouées. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça signifie, ce volet-là?
En fait, les bouées sont situées pour faire en sorte qu'on essaye de protéger notre lac, de protéger les berges du lac. Pardon. Entre autres, par exemple, on a des bouées blanches qu'on positionne partout alentour du lac. Habituellement, on met ça à une distance là, d'environ 30 à 50 mètres du bord du lac, surtout pour éviter que les vagues viennent frapper les berges, puis ce qui crée une érosion des berges qu'on appelle. Fait que à l'intérieur de ces bouées blanches-là, ben habituellement, on demande aux gens de réduire la vitesse là, à 10 km. Fait que ces bouées-là, c'est beaucoup pour préserver nos berges, mais c'est aussi pour la sécurité des gens parce que il y a des baigneurs aussi dans le lac. Fait que faut les protéger également. Fait qu'on demande aux gens, surtout là, aux plaisanciers, là, de naviguer plus au centre du lac. Fait que ces bouées-là également orientent un petit peu là, la navigation parce qu'on encore là, tantôt, on parlait de changement climatique, d'érosion des berges et tout ça. Mais ça fait en sorte que de plus en plus, on retrouve dans le lac des fois des espèces de petits îlots de terre qui se détachent du rivage puis qui s'en vont un peu comme à la dérive dans le lac. Fait que depuis cette année, on avait des bouées d'une autre couleur, des bouées oranges qu'on a décidé d'installer à des endroits où il est peut-être plus dangereux ou moins sécuritaire de naviguer. Fait qu'on va comme indiquer là, les obstacles à l'aide de ces bouées-là. Fait que c'est beaucoup pour aider à la navigation, mais sécuriser nos plaisanciers et les berges de notre lac également.
Oui, ben c'est super important et c'était super bien expliqué là, comment tu as expliqué la distance, mais justement en tant que chargée de projet lac au Gros-Bec, je vois beaucoup ça, là, l'importance de naviguer à une certaine distance des berges. Puis oui, c'est pour protéger la rive, mais aussi quand les vagues vont frapper là, sur le bord des berges, ben ça va justement faire de l'érosion puis amener avec le retour de la vague, les sédiments au centre du lac qui peuvent causer justement, comme Serge le disait, des amas là, de sédiments, puis bon, apporter plus d'ensablement dans le lac. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important là, à sensibiliser les gens qui écoutent, de ne pas circuler là, trop près des berges.
Exactement. Et on voit de plus en plus, ben, tu l'expliquais très bien. Malheureusement, on voit souvent, comme on dit, des bouts de terrain, là. Se dégrader, puis des fois des arbres, des gros arbres, parfois même centenaires, qui se trouvent à être déracinés, puis ultimement à tomber dans le lac à cause de cette érosion-là. Fait que c'est pour ça qu'on demande aux gens là, le plus possible de naviguer plus vers le centre du lac. Fait que, c'est pour aider là, notre plan d'eau, tout simplement.
Oui, parfait. Ben, c'est super intéressant. C'est une belle initiative là, de l'association de mettre ça en place à chaque année. Sinon, je voulais aussi parler du réseau de surveillance volontaire des lacs, qu'on appelle aussi le RSVL. Je sais que l'association, ben, le lac Joseph, en fait, est inscrit là, depuis 2017, si je ne me trompe pas. Donc, pour les auditeurs, je ne sais pas si vous voulez expliquer un peu c'est quoi le réseau de surveillance volontaire des lacs, puis qu'est-ce que ça implique pour l'association de participer à ça.
Ben, en fait, ce réseau-là, c'est une équipe qui est au sein du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est une équipe qui vient en soutien aux associations riveraines, effectivement. Et cette équipe-là interprète en fait les données qu'on leur communique lorsqu'on fait des tests de clarté d'eau, qu'on appelle. Que les tests qu'on fait 10 fois, entre 10 et 12 fois par été, on fait ça à l'aide là, d'un outil qu'on appelle, je pense que c'est le disque de Secchi,
ouais, c'est qui?
En ouais, fait, qu'on laisse là, descendre dans l'eau jusqu'à temps qu'on ne le voit plus finalement, et puis ça nous donne une mesure en mètres de la clarté de l'eau. Fait qu'on a ces données-là 10 fois dans l'été, puis également 3 fois dans l'été. Habituellement, c'est au mois de juin, juillet et août. On fait des tests là, de qualité d'eau. C'est à ce moment-là, on va chercher des échantillons d'eau. Il y a une procédure à respecter, je dirais, rigoureusement. Fait qu'on envoie les résultats. En fait, on envoie ces prélèvements-là au RSLV, et puis eux autres en font l'étude, l'analyse, puis ils nous communiquent les résultats, ce qui fait en sorte que d'année en année, on est capable de voir si la clarté et la qualité de notre eau là, diminue, s'améliore, se stabilise. Ça nous aide là, en fait à savoir comment réagir là, pour les années suivantes.
Ouais, puis est-ce que les résultats sont déjà disponibles, mettons, pour les dernières années? La qualité de l'eau, ça ressemble à quoi, dans les derniers tests?
Je ne sais pas si Denis a des résultats exacts, mais je sais que dans les dernières années, on est quand même assez stable au niveau de la clarté puis de la qualité de notre eau. C'est sûr qu'au niveau de la qualité, il y a certaines périodes dans l'été où des fois c'est plus problématique. Exemple, lorsque il y a la période d'épandage au niveau agricole, des fois ça peut amener là, des nutriments ou des phosphores. Je suis pas biologiste là, je suis pas expert en la matière, mais je sais que ça a un impact sur la qualité de notre eau. Et également, les périodes de grande chaleur aussi peuvent avoir un impact. Mais ça, comme on dit, on n'a pas le contrôle là-dessus. On fait ce qu'on peut faire, mais des fois, Dame Nature vient nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Mais au niveau des dernières années, on est quand même assez stable au niveau de la qualité et de la clarté de notre eau.
Si je peux ajouter un point, effectivement, j'ai tous les résultats que je vais présenter à l'AGA. Je vais présenter une nouvelle, je dirais peut-être pas une bonne nouvelle. C'est que je regarde mon graphique ici, on s'est considérablement amélioré depuis 2003. Jusqu'à 2017, on est en amélioration constante. Ça va bien, le phosphore diminue, les autres éléments aussi. Mais depuis 2017, on s'est beaucoup dégradé. Je dirais qu'on revient 20 ans en arrière. C'est dommage. J'ai aucune idée de la raison, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'une chance qu'on a continué, on a décidé de continuer à faire les mesures en 2022, parce que je veux savoir si c'est une anomalie dans mon graphique ou si vraiment on est en train de, entre guillemets, perdre notre lac.
OK, c'est ça. Dans les dernières années, ça a comme détérioré. Il y a eu des changements importants qu'on peut voir grâce aux données là, que vous avez récoltées, grâce aux échantillons d'eau que l'Asso a récoltés dans le fond.
C'est ça. Quand j'ai vu les dernières données, là, c'est pour ça que j'ai tracé un graphique que je vais présenter à l'AGA. De 2017 à 2021, on est revenu 20 ans en arrière sur toutes les courbes.
OK. Ouais, c'est ça, c'est assez marquant. J'avoue que j'ai pas regardé les résultats là, moi-même, mais je vais aller voir, c'est sûr, après. D'ailleurs, pour les auditeurs, les résultats des tests de RSVL sont disponibles là, sur Internet. On a simplement à marquer Lac Joseph, résultats RSVL, et on arrive sur un site du ministère là, avec des tableaux résumés. Donc, si jamais ça intéresse les auditeurs, là, c'est possible d'avoir accès à ces données-là. Donc, bon, ben, ça va être pertinent d'avoir un suivi cette année. On espère que les résultats, qui vont être pris cette année vont être, plus encourageants. On va se dire
Je
ça.
l'espère, je l'espère. Si c'est plus encourageant, ça veut dire que c'est juste une anomalie qu'on a eue. Ça se peut parce qu'on a eu des phénomènes météorologiques particuliers.
Oui, ben, l'été dernier, ça a été un été, où tous les lacs ont. Tous les lacs, je généralise beaucoup, là, mais où beaucoup de lacs ont vécu, des épisodes, c'est ça, qui étaient un peu. Étrange. Bon, la température était chaude pendant de longues périodes. Les niveaux d'eau étaient plus bas, donc l'eau se réchauffe encore plus vite. Donc, ça a eu plusieurs impacts un peu partout au Québec, là. Donc, peut-être que ça vient de là. L'avenir nous le dira avec les résultats de cette année.
Exactement, c'est ça.
D'où l'importance, comme on dit, de ne pas lâcher, de continuer à garder un œil averti là, sur tous ces changements-là, puis tout ce qui peut arriver, puis de toujours regarder ce qu'on peut faire de plus tout le temps pour justement l'amélioration là, de tous ces phénomènes-là.
Oui, vraiment, ça montre que le travail de l'asso est très important.
Tout à fait.
Ben, là, si je peux ajouter, c'est que il se fait actuellement un investissement important dans le traitement des eaux à Thetford Mines. C'est pour ça que moi, je veux qu'on continue à prendre des mesures annuellement. Cet automne, Thetford met en marche une ligne de déphosphatation de l'eau. Moi, je vais voir si ça va avoir un effet sur notre lac, si on va mesurer la mise en marche de cette ligne-là.
Oui, c'est ça, probablement qu'il va avoir une une différence. En tout cas, on va voir avec les résultats justement, mais je pense que c'est ça, ça devrait être en marche à partir de 2023.
Oui, c'est ça. Ils disaient qu'ils mettent ça en marche cet automne. Probablement au mois de septembre, la ligne de déphosphatation va rentrer en fonction.
Bon,
donc,
ben c'est...
C'est une très bonne nouvelle pour nous autres.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour vous, mais aussi pour les autres lacs en amont de vous, là, le lac à la Truite, le lac William, ils ont
absolument
les impacts avant vous.
Oui, encore pire que nous autres, effectivement, oui. Ouais.
Ben, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que le lac Joseph, en étant un petit peu le dernier de la chaîne, des fois on est tributaire un petit peu de ce qui se passe en amont, mais en même temps, ce qui est plaisant aussi, c'est de voir la très grande collaboration qu'il y a entre les différentes associations de riverains et le Gros Bec, qui fait en sorte qu'on fait un travail d'équipe, je pense, là, qui est important pour l'ensemble des lacs là, de notre région, des cours d'eau.
Oui, c'est beau de voir, on travaille vraiment tous ensemble en équipe, là, puis c'est beau de voir ça. Sinon, je voulais aussi parler du seuil du lac Joseph. Je sais qu'il y a eu un projet de restauration d'assez grande envergure là, de ce seuil-là dans les dernières années, 2013, je crois, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. Ce barrage-là, en fait, il y a eu beaucoup d'études de fait. Il y a eu beaucoup de travail aussi de fait par l'Association des riverains de l'époque. Puis finalement, ce barrage-là, je pense qu'il y avait ça un barrage immergé qui a été fait là, complètement au bout du lac, là, en aval du lac, qui visait à restaurer le seuil naturel du lac. C'est un projet pour lequel l'association a contribué à hauteur d'un montant de 10 000 $. Puis effectivement, le fait de remonter le niveau d'eau du lac a... Je dirais pas que ça a réglé tous les problèmes, évidemment, mais ça a fait en sorte que, un peu comme tu l'expliquais tantôt, Chloé, c'est que plus l'eau du plan d'eau, le niveau est bas, ben, plus l'eau se réchauffe, il se développe à ce moment-là là, des algues ou tout autre là, flore aquatique, là, pas nécessairement désirable. Alors, ce projet-là a été bien accueilli, puis a fait en sorte qu'effectivement, même au niveau de la navigation, ça fait en sorte que quand le niveau d'eau est plus haut, c'est plus agréable aussi là, de se promener là, en bateau, en chaloupe, en ponton, ou même en canot-kayak. C'est un projet important là, en 2013, effectivement.
Ah oui, c'est fun. C'est vrai que c'est un gros projet. Je pense que ça a impliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là, ce projet-là.
Beaucoup, oui. Ça me fait rire. C'est les études. Il y a comme 10 ans de travail avant de réaliser ce projet-là. Moi, j'étais jeune quand j'ai commencé à en entendre parler. Il parlait au début. Il y avait 3 îles qui étaient à l'emplacement du premier pont il y a très longtemps historiquement. Donc, on voulait comme démolir ces 3 îles-là et utiliser la roche des îles pour faire un bottage. Ça a été la première idée. Ça a pris des années à se réaliser. L'évaluation pour la réalisation a été évaluée à 80 000 et ça l'a coûté au final 750 000 $.
Hein? Oui, un peu plus. Hein?
Et oui, c'est là où on voit quand on prépare ou qu'on réalise un projet, quand ça se met à dégénérer, je ne sais pas tous les facteurs qui ont fait que ça a atteint ce coût-là, mais je suis certain que toutes les études qu'on a dû faire avant de réaliser le projet font partie des coûts, mais on voit qu'un projet peut rapidement prendre de l'importance.
Oui, vraiment. Puis, dans le fond, ce projet-là, c'est qui les autres partenaires qui ont participé, dans le fond? C'était les municipalités environnantes puis le ministère, genre? Probablement, c'est une question piège.
Oui, probablement, oui, c'est une question piège. Le seuil a été réalisé pendant l'époque où j'étais plus au lac.
Ah, ben, il n'y a pas de problème. C'est une question de curiosité. Quand j'ai entendu le montant de 750 000, je me suis dit, il y avait du beau monde pour payer ça, là, probablement.
Effectivement, il y a sûrement eu des subventions, contributions du ministère. Les municipalités ont dû être impliquées.
Oui, c'est ça.
J'ai des dossiers dans mes archives, mais je ne l'ai pas épluché.
Ben non, il n'y a pas de problème, mais au moins on sait que ça a eu un effet positif, dans le fond, là, ce projet-là. Donc oui, ça a été beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'études, mais finalement, de ce que je comprends, là, l'impact était très positif pour le lac.
Je pense que c'est la plus belle réalisation que le lac a pu avoir, qui a été finalement instillée, mise en place, initiée par l'association. C'est une belle réalisation, ça. Et c'est un gros merci pour nos prédécesseurs, ça, qui ont pu réaliser ça.
Oui, vraiment. Hein? Puis justement, comme de dire que c'était un des plus beaux projets qu'il y a eu, ça me fait penser... un peu, j'aimerais savoir quel projet ou quelle réalisation vous êtes le plus fier d'avoir contribué, d'avoir participé, d'avoir fait. Vous pouvez en avoir chacun un ou en avoir un commun, là, peu importe, mais...
Il y a aussi l'étude paléo-limnologique à laquelle l'association a contribué, en fait, plus de façon financière qu'autre chose, parce que c'était un super beau projet. Qui a été faite là par un étudiant de l'Université Laval qui, si je me trompe pas, est justement natif de la région de Thetford. Et lui, c'est un projet, en fait, c'est un travail au niveau de son doctorat qu'il a effectué. Faire un bref résumé, là, à l'intérieur de son travail, il a pris ce qu'on appelle des carottes dans le fond de des lacs, lac Joseph, lac William, lac à la Truite, et je pense qu'il y en a près ailleurs aussi, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que ces carottes-là, lui, les a découpées par tranches, puis avec ce qu'il retrouvait là, au niveau microscopique, il était capable de voir ce qui contribuait, là, en fait, là, pas à l'ensemblement, mais... à ce qui se retrouve dans nos lacs, finalement, là, tout le long de la rivière Bécancour. Fait que nous autres, l'association, c'est un projet là, d'une hauteur de 250 000 $, je pense. L'association a contribué à une hauteur de 10 000 $. Et puis, on a eu récemment là, des conclusions préliminaires là, de cette étude-là qui démontrent clairement là, que, en fait, c'est l'humain souvent qui détruit la nature, puis là, ben, je pense que ça n'a pas fait exception. Puis tout part principalement là, de la région de Thetford, puis quand on parle là, des mines, puis des halles de minières, les résidus miniers, puis tout ça suit la rivière Bécancour jusqu'au lac Joseph ultimement. Fait que c'est des résultats d'études qui nous aident là, ou qui vont probablement nous aider à cibler là, des pistes de solutions pour essayer là, de sinon améliorer, bien, au moins maintenir par différentes actions la qualité de notre lac. Donc, c'est un gros projet. C'est sûr que c'est le projet d'un étudiant, mais auxquelles l'association et les associations ont participé, puis qui s'avère être très importante là, pour les lacs là, qui longent la rivière Bécancour.
Oui, puis cette étude-là, justement, ben moi, de mon côté, hier, c'était l'Assemblée générale annuelle là, du Gros-Bec. Il y a eu une présentation là, de ce rapport-là hier soir. Puis c'est M. Olivier Jacques, là, qui est chercheur doctorant maintenant, qui a fait cette étude-là là, sur 5 ans. Puis comme Serge le mentionne, c'est vraiment une étude là, qui est très pertinente pour l'ensemble des lacs fluviaux de la Bécancour, là, donc que ce soit l'étang Stétor, le lac à la Truite, le lac William ou le lac Joseph. Les résultats sont marquants pour les trois. Puis c'est aussi, ça permet de conclure finalement que oui, il y a des sédiments amiantés qui se rendent jusqu'au lac Joseph. Donc ils font une course de plus de 25 km là, dans la rivière pour finalement atteindre le lac Joseph. Donc c'est assez impressionnant. Puis C'est ça. Je pense que ça aide beaucoup les associations puis les municipalités à dire ben il faut faire quelque chose par rapport à ça. Puis aussi le Gros-Bec qui est beaucoup impliqué. J'invite les auditeurs qui sont intéressés là, à consulter le rapport de M. Jacques là, qui est publié, qui est public maintenant. Je vais le mettre là, dans la barre d'infos également là, du balado si vous voulez aller le consulter là, pour en apprendre plus sur les résultats. C'est un rapport là, qui est de à peu près 300 pages, mais ça vaut la peine de le feuilleter, du moins se rendre à la section conclusions et recommandations pour en apprendre plus.
Ben, une semaine comme cette semaine, avec la pluie, c'est le temps de lire, fait qu'on peut trouver le temps.
C'est ça. Parfait, ça. Puis, Denis, je ne sais pas si toi, tu pensais à un autre projet qui te rendait fier ou si tu es du même avis ou si, peu importe, si tu as quelque chose à rajouter.
Je suis pas mal du même avis, effectivement. Non, j'aurais pas grand-chose à ajouter sur ce qui a été
ouais.
dit.
Oui, c'est ça. C'est vraiment ce projet-là dans les dernières années qui va faire une grande différence finalement. Là. C'est une étude qui vient prouver des choses qui vont aider à faire des changements finalement.
Oui, oui, ça, effectivement, on avait besoin de cette étude-là pour avancer parce que lorsqu'on se présente devant le MESCC, le ministère de l'Environnement, on nous demande toujours, c'est la première question qu'on nous pose, avez-vous des preuves? Là, on a des preuves.
Oui, c'est ça, là, on en a, puis c'est des preuves scientifiques d'une recherche qui a duré plus de 5 ans, fait que ça veut dire quelque chose, là.
Tout à fait. C'est des bons outils pour nous.
Oui, vraiment, c'est bien dit. Sinon, je voulais aussi parler rapidement du comité de liaison du lac Joseph. Je ne sais pas si un de vous veut se lancer là, pour en parler un petit peu.
Ben, je te dirais, personnellement, ça faisait quelques années que je voyais... au lac William, il y avait ce genre de communauté-là entre l'association et la municipalité. Ils travaillaient de concert, justement, là, pour le bien-être de leur lac. Puis je trouvais tellement que l'idée était bonne. Puis, à un moment donné, ben, on s'en est parlé au sein du conseil d'administration. Puis, en fait, pour faire une histoire courte, l'idée a été lancée. Et puis, ça a été bien récupéré, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un comité de liaison, je dirais, régional, en fait, qui implique l'association, évidemment, des riverains du lac Joseph, mais également des représentants des trois municipalités qui touchent le lac, soit Inverness, Saint-Pierre-Baptiste et Saint-Ferdinand. Fait que ça fait en sorte que on travaille dans un but commun, évidemment. Fait qu'au lieu de travailler chacun en silo, ben on partage nos informations, on partage nos idées. Fait que c'est beaucoup là un groupe de concertation qui fait en sorte que on essaye de trouver les meilleures façons, je dirais toujours au meilleur coût, de prendre soin de notre lac là, puis de voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Le rendre plus plaisant là, pour les gens qui l'utilisent tout simplement. Fait que c'est un groupe là, de travail, c'est récent, mais déjà on a de bonnes réflexions. Déjà, il y a des actions qu'on va poser éventuellement. On a fait une évaluation de toutes les problématiques. Qui sont relatives au lac, que ce soit des problématiques environnementales ou des problématiques, au niveau de la sécurité nautique. En fait, c'est tout ce qui englobe le lac. On réfléchit là-dessus, on essaie de trouver des solutions pour éventuellement poser des actions, mais je dirais que venir jusqu'à maintenant, là, c'est positif.
Oui, ben c'est fun. C'est le fun de voir que c'est encourageant, je dirais, pour l'association probablement de voir tous ces gens-là qui sont assez amitables et qui sont prêts à écouter ce que vous avez à dire, puis vice-versa, là, de s'écouter par rapport aux problématiques puis aux enjeux à mettre sur place. Tu sais, dans le fond, les associations riveraines, c'est un peu les yeux pour tout le monde, pour les municipalités puis pour le Gros-Bec également. Vous êtes un peu nos yeux sur le terrain pour voir la réalité, qu'est-ce qui change, parce que les municipalités comme nous, on n'est pas toujours sur le bas, près des lacs là, à voir. Fait que je pense que c'est un bon avancement, c'est quelque chose de positif. Comme tu disais, même si c'est récent, c'est un pas dans la bonne direction.
Tout à fait. On va essayer d'en faire plusieurs, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis, ben là, on approche la fin du balado, mais je voulais là, vous laisser la chance de peut-être dire un message, là, si vous avez un message à passer ou une conclusion à dire aux gens qui écoutent par rapport au lac, avant de conclure, ouais.
Je peux dire un petit mot, c'est que moi, j'irais à l'association, ça va bien nos affaires, mais ça va pas aussi bien que moi, je le voudrais. On manque de ressources, on a de la misère à recruter des gens. C'est difficile. Je vous dirais, actuellement, je suis comme le président de l'association. C'est moi qui prépare toutes les convocations, toutes les propositions, je fais toute la documentation. Je suis comme le chef d'orchestre qui gère tout ça. Je suis aussi le webmaster, c'est moi qui ai monté le nouveau site web. Je m'occupe de la page Facebook avec Serge. Serge me donne un coup de main, il répond aux questions, il y a au moins ça que je n'ai pas à faire. Actuellement, notre trésorière nous a donné un bon coup de main, mais c'est sa dernière année, on va être à la recherche d'un trésorier. Momentanément assumer le poste de trésorier. J'ai les compétences pour le faire, sauf que si je fais ça, on va comme devoir mettre l'association sur la glace un petit peu, c'est-à-dire la garder en opération, la garder en vie, mais si on n'a pas les ressources suffisantes, on ne pourra pas avancer aucun projet tant que notre conseil ne sera pas complet. Déjà, je suis particulièrement occupé par l'association. On est aussi membre du Gros-Bec, donc je suis sur le CA du Gros-Bec. Actuellement, il faut que je m'occupe de la succession de mon père. Il n'y a pas de testament, donc il complique un peu les choses. Je m'occupe aussi de ma mère, qui a 92 ans, qui souffre d'Alzheimer, donc qui a besoin de beaucoup d'attention. Donc, même si je suis à ma retraite, j'ai pas vraiment beaucoup de temps libre, je suis très occupé et on a besoin de bras à l'association. On a besoin d'aide.
Donc, ce que je comprends, c'est que tu portes un peu trop de chapeaux.
Oui,
puis que là, c'est là, on aurait besoin de gens qui se portent volontaires pour en prendre un peu, en enlever un peu de sur tes épaules. Fait que c'est un peu une invitation qu'on peut faire finalement en finissant le podcast, de dire aux gens. Si vous êtes intéressé, si vous êtes membre de l'association, mais que vous seriez intéressé à participer finalement dans le conseil d'administration comme trésorière,
si je me trompe pas. Oui, actuellement, c'est ça. Le poste de trésorier va être ouvert.
Même aux communications, je croyais avoir compris ça aussi, là, qu'aux communications, il n'y avait personne. Bref, l'association a besoin de volontaires pour se joindre, donc c'est un bon moment pour demander aux gens qui sont intéressés, qui écoutent, les gens qui écoutent présentement puis qui écoutent encore jusqu'ici, là, à la fin du balado, c'est des gens probablement qui sont intéressés par le lac Joseph et son bien-être. Donc, peut-être que ça va vous aider. En tout cas, je vous souhaite ça vous enlève un petit poids sur les épaules.
Oui, parce que plus qu'on va avoir de main pour nous aider, plus ça va nous permettre de pousser sur d'autres projets. Parce que finalement, on met sur glace des projets qui nous tiennent à cœur parce qu'on doit s'occuper de l'administration de l'association. Je trouve ça dommage.
Mm-hmm. Puis Serge, je ne sais pas si toi, tu avais un message à passer aussi.
Je vais te faire ça short and sweet, comme on dit. moi, je veux juste dire que moi, je suis très fier de mon lac. J'adore mon lac et je pense que tous les riverains et riveraines partagent ce sentiment-là. Alors, je me dis, la moindre chose qu'on peut faire pour notre lac, parce que c'est notre lac, c'est votre lac, c'est dans nos intérêts de le garder le plus beau et le plus en santé possible. Alors, la moindre chose qu'on peut faire, n'hésitez pas. On en parlait tantôt, on accueille n'importe qui à bras ouverts. C'est comme on disait aussi, c'est pas de 40 heures par semaine qu'on fait. Peut-être Denis un peu plus les autres, là, je l'admets parce qu'il est très bénéfique pour l'association, mais effectivement, toutes les personnes qui veulent nous aider à garder, à protéger et à maintenir notre lac en santé, vous êtes les bienvenus. Continuons dans ce sens-là.
Ah ben, c'est une très belle conclusion, je pense. Moi, je vais profiter avant de quitter pour dire aux auditeurs là, où vous suivez. Dans le fond, ils peuvent vous suivre sur votre page Facebook où vous êtes actif là, en ce moment et aussi sur le site web. Les deux informations vont être aussi en barre d'infos. Là, comme je disais tantôt, le site web, je vais aussi mettre la page Facebook et l'étude paléolimnologique. Tout va être en barre d'infos. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Puis en terminant, ben, je veux remercier Serge et Denis là, d'avoir participé avec moi. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi, Chloé.
Merci bien, Chloé.